Et on va lire notre texte introductif du jour. Titre d'aujourd'hui, voir plus loin. Alors, j'ai introduit ça un peu dans la présidence. La foi ne consiste pas à tout voir, mais à marcher avec celui qui voit tout. Ou, quand je ne vois pas Dieu, puis-je encore lui faire confiance? Ou marcher dans la lumière quand le chemin est sombre. La foi voit plus loin que les circonstances. Aussi, apporter la lumière quand il y a des ténèbres. Voilà pas mal de choses pour nous ce matin. Et donc dans Matthieu 5, si je peux avoir, il ne marche plus. Ah, ça va arriver. Ouais, parce que... Alors, attendez, je vais le retrouver après. Ouais, j'ai pas la dernière version. Matthieu 5, versets 14 à 16. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur un support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. Avant de parler de ce passage, j'aimerais parler de « on aimerait voir plus loin ». On aimerait voir le chemin. C'est dans notre nature de toujours s'inquiéter de ce qu'il va y avoir après. Le temps a été créé, la notion de temps, elle a été faite par Dieu. Lui, il est éternel. Il est l'alpha, il est l'oméga, il est le début, il est la fin. Et ça, ça nous dépasse. Si vous réfléchissez un petit peu sur comment Dieu pourrait savoir la fin, mais il est avec nous maintenant, parce qu'en fait, le temps, c'est ce qui nous fait fonctionner. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Le temps est rythmé par les astres, le soleil, la lune. Cette semaine, regardez l'éclipse, mais avec des lunettes. Le temps avance et on aimerait connaître qu'est-ce qu'il y aura demain. Et on s'inquiète de 2, 3, 100, 1000 choses qui n'arriveront pas. Il y en a peut-être une qui arrivera, mais on a cette nature, sans vouloir... Les femmes, souvent, un peu plus que les hommes. Je ne fais pas du tout, mais je pense que vous ne me contredirez pas. Hein ? Elsa est en train de me fusiller du regard. Est-ce que vous pensez que le fait de savoir l'avenir, ça faciliterait notre chemin ? Des fois... Il y a des petites vidéos de personnes, ils ont une montre, il y a leur durée de vie. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Moi, j'ai vu ça. On ne vit plus. Le gars, il sait qu'il lui reste 5 minutes, il fait tout pour éviter et pourtant... Bon, bref, ce ne sont que des vidéos. Les films, j'aime bien le cinéma. Il y a quelques films qui essayent de parler d'avenir, hein, pour les plus jeunes. Retour vers le futur, ça vous parle. Mais... Il y a un petit passage comme ça dans un film Matrix où il y a une dame qui lui dit « Ce n'est pas grave pour le vase. » Il se retourne, il fait tomber le vase. Elle lui dit « Est-ce que vous pensez, c'est parce que je vous ai dit que ce n'était pas grave pour le vase que vous l'avez fait tomber ou vous l'aurez fait tomber quand même ?» Bon voilà. Et alors là, ça fait un nœud au cerveau. Et voilà. Est-ce que le fait de savoir était là... Bon bref. Vous l'avez compris, la question un peu que La réflexion, c'est pourquoi Dieu ne nous montre pas tout. Dans cette recherche, on vit souvent par cette fameuse question du pourquoi. Il y a même plusieurs personnes qui utilisent la boîte du pourquoi, où on met un truc parce qu'en fait, on n'arrive pas à répondre. Pourquoi j'ai cette maladie? Pourquoi cette injustice? Pourquoi ce silence? Pourquoi cette attente? Et quand je regarde en arrière, ben en fait, je me rends compte que j'ai déjà pas mal de réponses. J'ai des questions, moi aussi, hein. J'ai deux maladies. Et des fois, je me dis pourquoi? J'en avais une. Et avec le cumul des mandats, j'en ai eu deux. Bon, ben, j'ai quelques indices. Mais je pense que tout cela nous façonne. Je suis prof et quand j'ai fini mes études, j'ai voulu rentrer à l'éducation nationale parce que pour faire prof, a priori, c'est le bon mécanisme. J'ai passé le concours, je l'ai raté une fois, je l'ai raté deux fois, je l'ai raté trois fois. Bon, je n'avais pas très bien travaillé. Et puis, le concours a été fermé pendant 8 ans. Et là, je me disais pourquoi ? C'était... 10 ans plus tard, je repasse le concours, je l'ai, et mutation, j'ai fait Montpellier, j'ai fait Perpignan, j'ai fait Marseille. Dieu a pris soin de moi, et peut-être que ça a permis que je reste là. Les copains qui ont passé le concours, ils ont été Charleville-Mézières, Saint-Denis. Ça aurait pas été grave, mais des fois, il y a un plan. Et moi, là, dans l'instant, c'est en mode ouais, pourquoi ? Pourquoi il n'y a plus le concours ? Pourquoi ça ne se passe pas comme j'aurais eu envie ? On aimerait des fois avoir cette vision sur les 10 prochaines années, les 2-3 prochaines semaines pour certains. Ouais. Mais Dieu éclaire rarement toute la route et on a besoin d'apprendre encore et encore. Le psaume 119, verset 105. Je pense que beaucoup de personnes l'ont déjà entendu, le connaissent. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Bon, déjà, c'est un sentier, ce n'est pas une autoroute. Et une lampe, à l'époque, c'était des lampes, c'était pas des lampes à LED frontales, 3 km de portée. C'était des lampes à huile et elles éclairaient 2-3 mètres. Donc, dans le sens vraiment derrière, c'est de dire Dieu ne nous donne pas toujours une carte, mais il nous donne sa présence. Et ça, c'est suffisant. Et suffisamment de lumière pour avancer chaque jour. Dieu travaille dans l'invisible. Dieu travaille davantage dans l'invisibilité que dans le visible. Et on va prendre l'exemple de quelques personnages. C'est le deuxième point. J'en avais fait 7. Ne vous inquiétez pas, j'ai réduit. On a le temps jusqu'à 14 heures. Je fais la blague à chaque fois. Des fois, on a l'impression que Dieu ne fait rien, que voir Dieu est absent. Mais quand on regarde la Bible, les exemples de ces pères de la foi, de ces patriarches, de ces personnages dans la Bible, on se rend compte que Dieu a commencé longtemps avant que leur saison se réalise. Et des fois, les saisons sont assez courtes et la préparation a été très longue. 5 personnages. Joseph, qui va être préparé dans l'épreuve. Moïse, qui va être préparé, lui, dans le désert. David, qu'il prépare dans l'attente. Et Esther, Dieu semble silencieux, mais il agit. Alors, je vous fais un petit résumé de ces 4 différents personnages et le 5e viendra conclure tout ça. Joseph. Joseph reçoit une promesse. Il voit un songe, il fait des rêves, il voit qu'un jour tous ses frères se prosterneront devant lui. Il faudra que je dise ça, mon frère. Et pourtant, juste après cette promesse, bim, allez, même entre guillemets, la promesse, il la partage à ses frères et ses frères nourrissent un peu de rancœur, on peut le comprendre. Et ils le vendent. Ils projettent de le faire mourir. Puis, ils le mettent au fond d'un trou. Il est emmené, il est vendu comme esclave. Il est accusé injustement. Il est mis en prison. Et en fait, ce qu'il a reçu, c'est pas trop ce qui se réalise. Il se rend compte que, purée, moi j'avais moi au milieu, tout le monde qui se prosternait, c'est pas du tout ce qui se passe. 13 années pendant lesquelles Joseph aurait pu dire, Seigneur, tu m'avais promis quelque chose, c'est où ? Mais Dieu travaillait, Dieu formait Joseph dans l'ombre. Il lui apprenait la fidélité dans la maison de Potiphar, parce qu'il a été une source de bénédiction pour cette maison. Il lui apprenait la responsabilité dans la prison. Il préparait son caractère avant de lui donner la position et la réponse. Moïse, on connaît hein, la mer Rouge en deux, mais il y a eu quand même pas mal d'étapes avant et une qu'on oublie peut-être. Un peu avant, on parle des 40 ans dans le désert. Bon, il y a eu deux fois. Hein. Lui, il a eu une fois pour lui et une fois, c'était le peuple. Mais la première fois, il pense devenir ce libérateur. Il est élevé par Pharaon. C'est le fils de Pharaon. Hein. Donc, il a une position, il est éduqué. Et d'un coup, il voit un Hébreu qui est maltraité. Il intervient et il agit avec sa propre force. Et il tue cet Égyptien. Et là, il doit fuir, parce que s'il est attrapé, il sera mis à mort. Et pendant 40 ans, il devient berger dans le désert. On pourrait penser que il a fait par ses propres forces et tout est perdu. Il a raté son appel, mais Dieu n'avait pas terminé. Et pendant 40 ans, Dieu travaille. Ce que personne ne voit, mais il agit. Moïse voulait peut-être délivrer un peuple, mais Dieu devait d'abord former un homme, devait apprendre la patience, l'humilité, la dépendance, le silence. Avant de conduire Israël, il devait apprendre à conduire des brebis. Si vous observez souvent dans la Bible, il y a des personnages qui sont formés par leur métier pour après agir pour Dieu. L'ombre des choses à venir. Et au moment où Moïse ne cherche probablement plus de devenir quelqu'un, Dieu lui dit maintenant va. Le désert, ce temps n'était pas une perte de temps. Un autre, David. David, il était tout jeune, il n'avait rien demandé. Lui aussi, il gardait un troupeau. Et là, il y a le prophète Samuel qui vient, qui dit « Amène-moi tes fils, je vais oindre le futur roi. » Alors là, c'était assez compliqué, c'est qu'il y avait déjà un roi. Il dit, tu seras le suivant. Pour le roi, c'était coton-coton. Hein. Ça a conduit plein de choses. Il lui dit, il le reconnaît, il dit, ça sera lui, loin. Et là, David, je suis le futur roi, mais il y a quelqu'un déjà sur le trône, qu'est-ce qui va se passer ? Il retourne garder ses brebis. Il se prépare, il défend ses brebis, des animaux sauvages. Puis, à un moment ou à un autre, il rencontre un monsieur de 3 mètres et quelques, un géant. Lui, c'était un adolescent, autour de 15 ans. Puis, il a tué Goliath, il a sauvé dans cette guerre, ils prennent une victoire contre les Philistins, et là, il est élevé, et puis le roi devient jaloux et il se met à le poursuivre. Il vit dans des cavernes, il vit comme pas dans de très bonnes conditions, il vit dans l'incertitude, mais pourtant, il avait été loin comme futur roi, ce qui arrivera après. Et cela nous montre quelque chose d'important. Une promesse de Dieu ne signifie pas nécessairement que la réalisation sera immédiate et qu'on a besoin d'apprendre des choses. Entre l'onction et l'accomplissement, il peut y avoir une longue période de préparation. David devait devenir roi, devait devenir le roi que Dieu voulait, mais il fallait un certain temps avant de lui remettre son royaume. Esther, le livre d'Esther, c'est assez extraordinaire. Dans tout le livre d'Esther, le nom de Dieu n'apparaît même pas. Et pourtant, Dieu est partout. Esther est une fille du peuple hébreu, une fille juive. Elle est dans un pays étranger. Et elle est choisie et elle devient reine. Elle était au bon endroit au bon moment et elle a été choisie. Et là, un complot est découvert. On apprend qu'un homme veut exterminer les Juifs, son peuple. Plein d'événements indépendants s'enchaînent et finalement, ce qui semblait conduire à la destruction du peuple devient un moyen de sa délivrance. Dieu n'est jamais nommé, mais Dieu est à l'œuvre. Cela devrait nous encourager, parce qu'il y a peut-être des saisons de notre vie où nous ne voyons rien. Nous ne sentons rien. Nous comprenons rien. Ça, c'est souvent, enfin pour moi. Nous prions et nous avons l'impression que silence, calme plat. Mais le silence de Dieu n'est pas l'absence de Dieu. Esther nous rappelle que Dieu peut travailler puissamment même lorsqu'il semble complètement invisible. Voilà pour ces quatre premiers personnages. N'hésitez pas, hein, à aller découvrir, redécouvrir tout cela. Et enfin, le cinquième, c'est Jésus. On arrive au sommet. Pendant 30 ans, Jésus, Dieu fait homme, 100% Dieu, 100% homme, il est sur terre. Et pendant 30 ans, on n'a presque rien. Nous avons quelques événements de son enfance, 30 années de vie ordinaire. Jésus a dû apprendre un métier, Jésus travaille, Jésus grandit. Il vit dans une famille, Jésus connaît la vie humaine. Et vient à 30 ans son ministère public commence, 3 années, 3 années qui vont changer l'histoire du monde. Ne faisons pas l'erreur de penser que les 30 premières années étaient inutiles. Dieu était déjà à l'œuvre. Jésus n'est pas descendu du ciel directement dans la foule pour commencer son ministère. Il a accepté de vivre une période cachée, une longue période, hein. Et c'est important pour nous. Nous vivons dans une société qui veut tout voir immédiatement. C'est la société de maintenant, tout de suite. On veut être utile immédiatement, on veut être reconnu, on veut voir les fruits, comprendre immédiatement ce que Dieu fait. Mais Dieu travaille souvent autrement. Car avant le fruit, il faut des racines. Et les racines sont invisibles. Mais c'est là que cela nous amène à notre vocation. J'aimerais juste que on prenne conscience que des fois on ne voit pas toute chose, mais d'une autre manière, on ne peut pas dire simplement Dieu prend soin de moi et on ne peut pas s'arrêter en disant il me fait du bien, il prend soin de moi, moi, moi. Je, nous, nous, nous. C'est une petite parenthèse, mais le centrer sur moi, on n'est pas dans un évangile de la prospérité. Dieu travaille dans nos vies, dans l'invisible, pour ensuite nous envoyer dans le visible. Et c'est notre vocation. Il nous transforme dans le secret pour que nous devenions lumière dans le monde. C'est le passage qui est dans le Sermon sur la montagne qu'on a lu au début. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Jésus ne dit pas, essayez de devenir la lumière. Essayez de briller. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Dans Jean 9, 5, il dit, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Mais Jésus, après son départ, ben, qu'est-ce qui se passe? Ben, il nous transmet le flambeau, hein, on peut le dire comme ça. Ça continue bien. La lumière doit continuer à briller et à travers nous, parce que nous sommes unis à lui. Il nous appelle à refléter cette lumière dans le monde. Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Ce n'est pas parce que nous sommes devenus extraordinaires, mais parce que nous avons reçu sa lumière. Il y a un changement, nous étions dans les ténèbres et Christ nous a fait entrer dans sa lumière. Ça change notre manière de parler de notre foi. Parfois, nous faisons de l'évangélisation quelque chose de tellement compliqué. On dit même des fois, moi je ne suis pas un évangéliste. Il faut avoir les bons arguments, avoir fait de la théologie, avoir fait la formation vocation. Pour ceux que ça intéresse, nous reprenons vocation l'année prochaine. Un peu de pub. Hein. Mais ça correspond bien à ce que je suis en train de partager. C'est difficile de parler avec quelqu'un qui ne croit pas, qui vient avec des arguments. Mais Jésus, quand on regarde Jésus, Jésus marchait au milieu des gens. Il mangeait avec eux, il parlait avec eux. Il allait même vers les malades. Il osait toucher les lépreux. Il accueillait ceux que les religieux repoussaient. Ça lui a valu des accusations. On l'a appelé ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Il était peut-être coupable par association aux yeux de certains. Pourquoi ? Parce qu'il était suffisamment proche des gens qui avaient besoin de Dieu. Et on pourrait se poser cette question. Sommes-nous suffisamment proches des personnes qui ont besoin de Jésus ? C'est facile d'être une lumière dans une pièce, tout éclairée. On passe un peu inaperçu et on ne voit pas trop si on éclaire tant que ça. Mais le défi, c'est d'être dans des endroits sombres et de briller. De briller parfois quand on est seul. De qui sommes-nous l'ami ? De qui sommes-nous suffisamment proches pour que quelqu'un puisse rencontrer Jésus à travers nous ? Tu peux revenir juste en arrière, s'il te plaît, Bruno. SIC, c'est le petit mémo technique du jour. J'ai rencontré un évangéliste et j'ai fait partie d'un groupe de musique pendant un long moment. Et au bout d'un moment, il nous disait, qu'est-ce que vous essayez de faire ? On veut parler à travers notre programme de chant, on veut amener les gens à rencontrer Dieu. On veut exposer le plan du salut. Et il nous a fait travailler sur ces trois points qui est le SIC, social, information, confrontation. Avant de donner une information, avant de confronter les personnes en leur disant « Et toi, t'en es où ?» par rapport à Dieu, ben Dieu, Jésus faisait du social. Il a donné à manger. Il a passé du temps avec les gens. De temps en temps, il y avait de l'information qui est, ben, qui est Dieu, le plan du salut, le fait d'être séparé. Et rarement, et au bon moment, il y avait cette confrontation. De dire, maintenant, toi, tu en es où dans la vie, dans ta vie avec Dieu ? Mais on ne peut pas commencer en disant confrontation, confrontation, ou information, confrontation. Il y a besoin de faire des barbecues avec ses voisins. Mais nous, dans notre programme de chant, il y avait besoin, les gens venaient faire gospel, voulait entendre une soirée de gospel, eh ben, il fallait qu'on chante Amazing Grace ou Happy Day. Parce que les gens, ils étaient venus pour du gospel. On se sert du gospel, les négros spirituels, parce que ça attire du monde. Et nous, on triche et on annonce Jésus, Jésus, Jésus. Et confrontation. Eh, les gens, ils ont besoin d'avoir du social. On a eu des articles des fois qui nous disaient ben, on se sert de quelque chose et on n'a pas du tout. Voilà. Donc on a retravaillé. Et je pense que pour nous, c'est important de réfléchir et de savoir, de pas toujours parler de but en blanc, de sa foi, sa foi, sa foi. Alors, je vous dis pas qu'il faut être comme le monde, mais être comme Jésus faisait. que nos actes puissent finalement conduire à évangéliser. Donc du coup, quelqu'un, il y a peut-être autour de nous quelqu'un qui ne va plus à l'église, quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui ne croit plus, quelqu'un qui est en colère contre Dieu, quelqu'un qui ne connaît tout simplement pas Jésus. Peut-être Dieu t'a placé précisément dans un endroit, et ce n'est pas par hasard, comme Esther, cette reine dans ce palais, comme Joseph en Égypte, comme Daniel à Babylone. Dieu nous place parfois dans des endroits où nous n'aurions pas choisi d'être, parce qu'il veut y briller. Il veut y faire briller sa lumière. Peut-être dans la situation dans laquelle tu passes, Dieu veut que tu brilles. On a des témoignages de personnes qui sont malades, ils sont à l'hôpital, et c'est l'occasion de témoigner. De l'obscurité à la lumière, et c'est ce que je veux revenir sur vraiment le thème. Peut-être que certains ici sont actuellement dans une période obscure. Tu ne vois pas ce que Dieu fait, tu ne comprends pas pourquoi tu traverses cela. Tu pries et tu attends, mais peut-être que Dieu est en train de travailler quelque chose en toi que tu ne vois pas encore. Et pendant ce temps, tu peux déjà être une lumière pour quelqu'un d'autre. On n'a pas besoin d'avoir tout compris pour témoigner. On n'a pas besoin d'avoir toutes les réponses pour aimer quelqu'un. Tu n'as pas besoin d'avoir une vie parfaite pour parler de Jésus. Tu peux simplement dire, je ne comprends pas tout de ce que Dieu veut, de ce que Dieu fait dans ma vie, mais je sais qu'il est avec moi. Et ça, c'est déjà un témoignage. Dans 2 Corinthiens 3, ça opère une transformation. Il est écrit, mais lorsqu'ils se convertiront au Seigneur, le voile sera ôté. Or le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme le Seigneur, l'Esprit. Rapidement, le point numéro 3, qui nous rappelle que il n'y a pas l'absence de tempête. Dimanche dernier, je parlais dans la présidence de la paix. Jésus, le prince de la paix. Il faut comprendre une chose. La paix chrétienne n'est pas l'absence de tempête. Dans Marc 4, il y a un bateau. Il y a des disciples qui traversent un lac. Et une violente tempête va se lever. On peut imaginer que les vagues remplissent la barque et les disciples, qui sont des professionnels, c'était des marins, ils paniquent. Et Jésus dort. Ils viennent le réveiller. Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssions ? Cette question peut être aussi la nôtre. Seigneur, tu ne vois pas ce qui m'arrive ? Tu ne vois pas que je suis en train de couler ? Mais Jésus n'était pas absent, il était dans la barque. S'il dort, ce n'est pas parce qu'il ne se soucie pas d'eux, il ne se soucie pas de la situation. Mais il sait que la tempête ne remet pas en cause l'issue de l'histoire. Et Jésus se lève et commande au vent, silence, tais-toi, la tempête s'arrête. Jésus aurait peut-être pu empêcher complètement cette tempête, mais il choisit de la traverser avec eux. La paix chrétienne, ce n'est pas, il n'y a pas de problème, mais Jésus est dans ma barque. Peut-être aujourd'hui, tu ne vois pas Dieu agir. Tu pries, tu attends et rien ne semble changer. Mais ne pas voir Dieu agir ne signifie pas que Dieu n'agit pas. Joseph a attendu 30 ans, 13 ans. Moïse, 40 ans. David a été loin et a passé des années à fuir. La gloire de Dieu se prépare souvent dans le secret. Et peut-être que parmi nous, il y a quelqu'un qui se dit, moi, j'aimerais accepter ce Jésus, qu'il vienne dans ma barque. Et c'est possible encore aujourd'hui. Dernier point, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, Nous vivons dans une génération habituée à obtenir rapidement ce qu'elle veut. Et oui, des fois, on demande à Dieu, « Seigneur, j'ai prié, maintenant règle le problème. » Dieu nous demande de la persévérance. On a des exemples où il dit « persévérer dans la prière ». Des exemples où les gens prient et Dieu leur répond « Ta grâce me suffit ».